Le yiddish aujourd'hui. Chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors aujourd'hui nous allons faire une émission d'actualité, hein, comme beaucoup de beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup de radios aussi et beaucoup d'institutions. Nous allons consacrer donc deux émissions aux poètes juifs d'Ukraine, au poète qui écrivait en yiddish, donc en hommage au peuple ukrainien.
Pas aux poètes actuels.
Non, pas des poètes actuels. Alors, je ne sais pas s'il y a des poètes actuels ukrainiens qui écriraient en yiddish.
Oui, peut-être
bon,
pas.
Il y a des écrivains...
Moldave,
oui. Il y a... comment il s'appelle? Estreich ou quelque chose comme ça, un poète.
Gennady
Estreich, hein, c'est ça. Mais
il
alors,
est
lui...
de Moldavie. Je crois.
Et il y a Efim Chorny qui chante. Mais en Ukraine, je ne sais pas s'il y a actuellement des poètes. En tout cas, il y a eu...
Qui écrivent
en yiddish, en plus. Oui. Ouais. Il y a eu, en tout cas, une grande, grande floraison de poètes ukrainiens. Là, nous parlons surtout des années 20-30. Alors, on peut reprendre un tout petit peu l'histoire de l'Ukraine, qui est très, très complexe, dans la mesure où c'est finalement... une zone, une région qui n'a pas été souvent un pays, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu... ils ont été rattachés à l'Empire tsariste. Ils ont été aussi à morceaux. La Galicie avait été rattachée à un moment à l'Empire austro-hongrois. Ce qui n'a pas empêché le peuple ukrainien d'avoir une langue et d'avoir aussi... un sentiment national qui a été en particulier renforcé par la poésie. Et le poète le plus connu, c'est Taras Shevchenko, qui a vraiment cimenté la conscience nationale ukrainienne. Alors, les Juifs ont vécu dans cette région, donc dans cette Ukraine, très tôt. Donc ça, ce sont tous ces Juifs qui ont été chassés de l'Ouest et qui sont venus vers l'Est et qui se sont... qui se sont installés partout dans toute la...
En même temps que la Pologne.
Voilà,
quoi,
la Pologne, la Russie, enfin ce qui deviendra la Russie, etc. Et donc c'est une population assez importante qui a subi, on peut dire, trois grands traumatismes. Donc il y a eu en 1648-49 Khmelnytsky qui s'est soulevé contre les Polonais, puisqu'à l'époque, l'Ukraine appartenait à la Pologne, qui a établi un État indépendant cosaque. Donc c'est un héros ukrainien, mais c'est aussi quelqu'un qui a massacré les Juifs en grand, grand nombre et qui a même anéanti certaines communautés de villages. Et les Juifs ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se rétablir. Ensuite, il y a eu justement une renaissance, un renouveau du judaïsme ukrainien, en particulier par le chassidisme, donc le Baal Shem Tov est ukrainien. Et bien sûr, ça a essaimé après partout. Et ensuite, deuxième grande époque de pogrom, c'est après la révolution russe. Donc, en fait, les Ukrainiens veulent devenir indépendants. Ils n'acceptent pas d'entrer dans l'Union soviétique, en fait, d'être soviétisés. Ils ont proclamé la création d'un État autonome en 1917, qui a donné une guerre civile extrêmement violente, avec aussi de grands massacres de Juifs, de grands pogroms qui ont tué entre 200 et 300 000 personnes. Donc c'était extrêmement important. Et puis, troisième traumatisme, c'est la Shoah. Donc, lorsque Hitler la Russie, envahit en particulier l'Ukraine, les Ukrainiens ressentent ça comme une libération, puisqu'ils sont libérés du joug soviétique. Oui, il faut dire que quelques années avant, en 1932-33, il y a eu une grande famine déclenchée par Staline, où il y a eu des millions de morts. de gens qui sont morts sur leur terre qu'ils étaient en train de cultiver. Et donc les staliniens ont confisqué tout ce qui était nourriture. C'est ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, qui a été longtemps masqué évidemment par l'Union soviétique et qui maintenant est connu. Donc quand les nazis arrivent,
ils les ont vus comme des sauveurs.
Voilà, des sauveurs, des libérateurs. Donc ils ont été très très collaborateurs, et en particulier ils ont collaboré de manière très importante à la Shoah, avec là aussi environ 1 million de morts. Je n'ai pas le chiffre, mais il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de morts juifs de la Shoah en Ukraine.
Alors c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle, là-bas.
Ouais. C'est ça, c'est la Shoah par balle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a rassemblé les gens devant des fosses communes et on les a fusillés, quoi. Et les Ukrainiens ont participé beaucoup, et ils étaient aussi des gardiens de camp. Hein. Alors c'est pour ça que quand Zelensky dit qu'il y a eu des justes en Ukraine, il y en a eu, c'est vrai, comme il y en a eu en Pologne, comme il y en a eu partout, mais quand même, les Ukrainiens ont quand même été des collaborateurs. Bon, là, nous sommes pendant la guerre de 39-45, le temps a passé, hein, je veux dire, voilà, aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes personnes.
Ça remonte quand même sur les réseaux sociaux juifs. Ça remonte quand même, c'est les noms de localités où maintenant il se passe des choses affreuses sont associés pour les gens qui sont enfants de rescapés de la Shoah ou de pas rescapés. C'est associé à des massacres affreux, et quelque part il y a un petit peu, pas un sentiment de vengeance, mais il y a quelque chose d'un petit peu ambivalent, quoi, qui se joue.
Oui, parce qu'aussi, c'est des gens qui sont originaires de ces localités, et qui ont réussi à partir, justement, avant la Shoah, hein, parce qu'il y a... en Ukraine, il n'y a eu pas beaucoup de survivants. Maintenant, il y a une communauté juive relativement importante. Bon, là aussi, les chiffres sont très variés. On dit entre 50 000, 100 000. J'ai même entendu 200 000 juifs en Ukraine, ce qui, moi, me paraît beaucoup. Mais ce sont beaucoup des gens qui sont venus, en particulier tous les Lubavitchs, ont implanté des dizaines de lieux, enfin d'institutions. Et puis il y a aussi la tombe du rabbi Nachman de Breslav, qui est à Ouman. Toutes ces villes, effectivement, tout d'un coup on entend leur nom alors que personne ne les connaissait à part les chassidim. Donc à Ouman, il y a toute une petite communauté chassidique qui s'est installée, qui vit même là à l'année. Et il y a d'énormes pèlerinages. Cette année, je pense que ça n'a pas été trop possible. Et donc, de façon, il faut savoir aussi que l'indépendance officielle du pays, c'est août 91. Voilà, donc ça fait 30 ans que l'Ukraine est vraiment un pays, et que c'est développé aussi cette conscience nationale que Poutine a vraiment sous-estimée. Les Ukrainiens se sentent Ukrainiens, et bon, comme on le voit, ils défendent leur pays. Alors, il y a eu donc beaucoup de poètes ukrainiens juifs, hein, bon, qui se ressentaient pas forcément comme des Ukrainiens à l'époque. Donc là, nous sommes dans les années 20 ou même avant. Alors, avant 1920, c'est tsariste, hein, c'est ça, l'Ukraine fait partie de l'Empire tsariste. Et après 17, elle fait partie de l'Union soviétique. Hein, mais l'Ukraine n'est pas un pays indépendant, il fait partie des républiques soviétiques. Hein, voilà. Et donc, les poètes sont eux-mêmes, ils ont une conscience aussi de russe. Hein, voilà, on peut dire comme ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui donc de David Hofstein, qui est un des importants poètes de cette époque soviétique. Donc, je vous donne ses dates. Il est né en 1889, mort en 1952. Donc, il est né à Khorostishiv, qui est à Shtetl, une bourgade, un hameau, hein, en Ukraine. Et ensuite, il a fait son service militaire. En 1906, oui, enfin, là, c'est avant de faire le service militaire, en 1906, il s'installe à Kiev. Donc, Kiev est un très important lieu culturel, déjà avant la Révolution et après la Révolution. Il commence à écrire en yiddish, en hébreu et en ukrainien. Hein, ce sont des auteurs qui sont multilingues. Il se marie en 1915 avec Hindel Gittel. Il va avoir deux fils, Shammai, né la même année, et Hillel, né en 1916. Sa femme meurt en 1920, donc très jeune, et il va épouser une deuxième femme, Feige, dont il aura une fille. Alors, en 1917, donc, c'est la Révolution, il est à Kiev et il y a le Kiever Group, donc le groupe de Kiev, avec en particulier, qui fonde en particulier la Kultur League, donc une ligue, enfin une association culturelle, qui va avoir énormément d'activités. Alors là, nous sommes dans la bonne époque soviétique, c'est-à-dire que c'est l'époque où le régime encourage les minorités, en particulier le yiddish. Donc, ils vont avoir une maison d'édition qui va éditer en particulier une revue qui s'appelle Eigens. Et là, se détachent plusieurs grandes figures des écrivains yiddish ukrainiens. Bergelson, Der Nister, Peretz Markish, qui est peut-être le plus grand, et Kvitko et Hofstein. Voilà, c'est tout ce groupe qui va être très, très productif. Alors, on va peut-être commencer par écouter une chanson qui est en fait un poème où Hofstein parle de son enfance, hein, donc de cette enfance dans un bled paumé, voilà, pour parler de manière moderne, donc dans un lieu très, très, très petit, enfoui sous la neige. Et c'est très lyrique, romantique, on n'est pas du tout encore dans des thèmes révolutionnaires. Et ça s'appelle Dans les nuits d'hiver, hein, en français, une Winternacht, hein, ou quelque chose comme ça. Et donc, on l'a aussi dit. Alors, la chanson, en fait, prend qu'une partie du poème. Donc, je vous propose d'écouter la chanson et ensuite, je vais lire l'ensemble du poème que j'ai en partie traduit et en partie Dobzhinsky. Voilà.
Mais la chanson s'appelle Auf russische Felder.
Oui, parce que c'est la partie de
qui est utilisée.
Ouais, qui est utilisée.
Ah oui. Alors voilà. J'ai deux versions de cette chanson. Une par Paulina Shepherd, qui est très très connue dans le domaine de la chanson yiddish. C'est une. Moi, je ne sais pas si elle est ukrainienne en fait d'origine. Peut-être bien.
Ah, attention.
Mais elle est mariée avec un Anglais, avec un clarinettiste klezmer remarquable. Et du coup, elle s'appelle Paulina Shepherd. Paulina, ouais. Bergère. Et elle dirige un chœur, elle chante en solo, elle chante aussi en russe, mais beaucoup en yiddish. Elle est vraiment formidable. Donc elle a enregistré cette chanson. C'est elle qui chante, elle est au piano en même temps, mais on entend son chœur de femme qui fait juste les harmonies, quoi, sans parole. Mais l'ensemble est très très joli. Donc Paulina Shepherd auf russische Felder. Как все, только окна повыше.
Voilà, donc cette chanson qui est une partie d'un long poème consacré dans laquelle donc David Hofstein évoque son enfance dans ce village très 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 perdu. Voilà. Donc je vais en fait lire l'ensemble du poème, mais alors la première partie est la troisième. Oui, la première et la troisième partie, c'est moi qui les ai traduits. Par contre, la deuxième partie a été traduite par Charles Dobzhinsky dans ce livre qui s'appelle « Le miroir d'un peuple », anthologie de la poésie yiddish 1870-1970 aux éditions Gallimard. Il existe aussi en poche. Alors, ce livre a de grandes qualités, c'est-à-dire que il fait vraiment un panorama des écrivains des poètes yiddish, donc sur 100 ans, avec des présentations toujours très intéressantes de leurs œuvres. Par contre, les traductions ne sont pas toujours très fidèles. Voilà.
C'est une traductrice qui parle.
C'est une traductrice qui parle. C'est-à-dire, quand on compare avec les originaux, on voit quand même qu'il y a des erreurs, il y a vraiment des choses qui sont trop loin du texte. Bon, là, je n'ai pas vérifié, hein, donc je vous lis la première partie traduite par moi, puis la deuxième traduite par Dobzhinsky, qui est celle qui est chantée, voilà, et la troisième, voilà. Là-bas, au-dessus des villes, a déjà sonné de la pointe de la tour et une et deux heures. Dans l'abîme de la nuit, dans le pays de la neige, s'est englouti un village. Comme des petites îles de calme humain, enveloppées de paille, réchauffées dans la nuit avec l'étable et la clôture enlacées dans le sommeil, une maisonnette s'agrippe à d'autres. Le calme étoilé écoute attentivement le calme souffle de la vie. Dans une seule maisonnette est resté le calme cercle de la lumière d'une lampe. Les coins endormis entendent à peine venant de la table un bruissement de feuilles. Mais les jeunes yeux ne sont jamais rassasiés. Un bouquet d'années tremblantes est englouti dans le courant des époques. Un coup d'œil aiguisé est englouti dans les plus lointains des lointains. Un jeune esprit est englouti dans le monde tout entier. Mon courage vient de cette nuit vient ma fière tristesse. J'attendais déjà à ce moment, dans une libre solitude, près de la porte de la vie, près du portail des mondes. Deuxième partie. Quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie. Un vieux cheval au loin tire un traîneau grinçant. Sous la neige, un chemin dont je suis le passant. Dans le dernier recoin de ciel illuminé, un bouquet de lueurs tristement s'est fané. Voilà qu'un blanc désert s'étend à l'horizon. Au loin, je vois semer quelques toits de maisons. Là-bas, un hameau d'or enfoui sous la neige, la maison juive où les sentiers vont en cortège. Simple maison, pourtant les fenêtres sont larges. Moi, l'aîné des enfants, je revois mon village. Voilà mon cercle étroit, petit monde tranquille. Une fois par quinzaine, on se rend à la ville et l'on rêve en silence à de plus vastes plaines. Pistes, routes là-bas, enneigées lointaines. Les pleurs cachés au fond des cœurs comme des gemmes ou des grains attendent vainement qu'on les sème. Quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie. Et voici maintenant la troisième partie. Le Shabbat est déjà fini. Sur la neige blanche, quelqu'un de grande taille répand de la cendre grise. Dans une petite boutique, deux personnes attendent déjà. Une jeune fille non-juive aux cheveux noirs et une bouteille noire. Le fouet se repose là-bas, derrière le poêle. Il est caché par l'épaisse obscurité. Une serviette de brouillard a, là, en haut, déjà tranquillement couvert le dernier petit gâteau. Papa a célébré le troisième repas et il est tissé dans l'obscurité avec la table. Et entre les petites sœurs et les ombres fatiguées, un fil de murmures se tisse et se tisse. Maman cherche dans la vitre une étoile lointaine. Ne l'ayant pas trouvée, elle reste assise, pensive. Je plonge dans la tristesse et ne veux pas penser que la vache m'attend. Attends le foin, attends la nuit. Voilà donc ce poème qui parle en fait de la fin du Shabbat. Hein, donc,
oui, un peu comme dans la chanson que nous chantons, la fameuse berceuse.
Oui.
Où c'est un peu pareil, elle ne voit pas l'étoile arriver, donc on peut prolonger un tout petit peu la joie du Shabbat.
Oui, la joie qui n'est pas une vraie joie là. Hein, y a quand même, ça décrit bien les élans d'un adolescent hein, qui est quand même, bon là il n'est pas tout petit, hein, qui est un petit peu enfermé à la fois par la neige, par ce village, qui lit et qui rêve de lointain. Et bon, cette fin de journée l'attriste et il... Bon, il n'a pas envie d'aller nourrir la vache parce qu'il faut sortir dans le froid. Ouais. Voilà, donc toutes sortes d'impressions très, très fines et très, très, très jolies. Je vais peut-être vous lire aussi, puisque j'ai parlé de ses deux fils, donc aussi un petit poème, oui, petit parce qu'il n'est pas très long, qui parle de ses enfants. Qui est très joli. Bon, ça, c'est vraiment des poèmes légers, hein, on peut dire, et qui sont... parce qu'après, il a écrit aussi des choses beaucoup plus tristes, mais on en parlera peut-être une autre fois. Tous ces écrivains ont énormément écrit, ils ont été très prolifiques, et bon, je n'ai pas parlé non plus, je parlerai aussi la prochaine fois, je crois qu'il faut revenir là-dessus, sur la fin de sa vie, qui était complètement tragique. Voilà, alors je cherche, où est-ce que j'ai... Voilà. Donc ça, c'est ces deux enfants, hein, nés, comme je vous l'ai dit, en 1915 et 16, Hillel et Shammai, hein, ou Shammai et Hillel, plutôt.
Oui. Ils devaient beaucoup se disputer.
Voilà, exactement. Ils se disputent. Et donc, je vous résume quand même un tout petit peu le poème, c'est-à-dire le premier nom Shammai est en fait le nom d'un grand-père, hein, voilà, donc ça c'est logique de donner le nom, c'est bien qu'on donne toujours le nom aux garçons et aussi aux filles d'un aïeul décédé, hein, dans le monde ashkenaz, on donne le nom de quelqu'un qui est déjà décédé, hein, donc souvent un grand-père, un arrière-grand-père, un oncle, voilà. Et après il dit qu'il y avait d'autres noms possibles, mais que lui, comme le premier s'appelait Shammai, il a décidé d'appeler le deuxième Hillel. Comme des louveteaux, mes enfants jouent, comme des louveteaux tous les deux. L'aîné s'appelle Shammai, c'est ainsi que s'appelait mon grand-père dans une petite ville muette, un vieillard à moitié aveugle. Et le second s'appelle Hillel. Un autre nom attendait sur un échelon proche de l'échelle ombreuse. Mais moi, au milieu du large monde, du grouillement bouillonnant, j'ai soudain vu là comment plane le souffle de mes tendres années sur la vieille moisissure des nids. L'un s'appelle Shammai et l'autre Hillel. Comme des louveteaux, mes enfants jouent, comme des louveteaux tous les deux. Ils se griffent l'un l'autre avec des regards méchants pleins de feu sauvage. Et moi, je regarde avec un regard apaisé et un cœur aveugle comment les noms anciens se roulent comme des louveteaux, comme des pelotes de jeune bonheur. Mmh. Voilà, donc vraiment le bonheur d'un père qui regarde ses enfants jouer, tout simplement. Voilà.
Oui, mais poétiquement. Qui se griffe quand même,
ils se battent pas mal, oui, oui. Voilà, ben on va terminer là, parce qu'on n'aura pas entendu la deuxième version, peut-être la prochaine fois, toujours de cette même chanson.
La chanson de David Hofstein. Alors, à la semaine prochaine. Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.